Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour et merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Pascal Akosulelou-Bodzona, conseiller spécial chargé des affaires politiques à la présidence de la République togolaise, a effectué ce lundi une mission diplomatique de haut niveau à N'Djamena, la capitale du Tchad. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le Togo et le Tchad, marquées par un dialogue constant et une coopération renforcée entre les deux pays. Arrivé à N'Djamena, Pascal Bodzona a été reçu par le maréchal Mahamat et Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, au palais présidentiel. L'audience qui s'est déroulée dans un cadre discret a permis à Bodzona de transmettre un message dit confidentiel du président de la République togolaise, Fornia Singbe. Nous aborderons le sujet dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 28 janvier 2025. Nous parlerons certainement d'autres sujets liés à l'actualité. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itekossi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Eric Pakoudjo-Josson. Bonjour. Eric, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, chers collègues.
Quand vous étiez un peu en réflexion.
Oui, j'étais un peu loin. Excusez-moi.
Non, mais ça arrive.
Ouais. Chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
D'accord. J'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi.
Adam Andronou, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous celles et à tous ceux qui nous suivent sur la 93.5, la radio de la nouvelle génération.
J'espère que vous allez bien aussi.
Et par la grâce de Dieu.
Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation.
C'est un plaisir.
Nous sommes au mardi. Mardi, ça rime bien avec la chronique littéraire. Chronique littéraire que nous dénommons bien sûr la bibliothèque animée et le maestro, la personne quand même qui nous aide bien sûr à animer bien sûr cette bibliothèque. C'est bien Claude Assiobotis. Claude, bonjour.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Oui, rien de grave dans ma vie, dans ma santé, oui.
D'accord, c'est l'essentiel. Nous sommes là encore pour notre chronique hebdomadaire qui parle plus alors de la littérature. Aujourd'hui, deuxième chronique sur le roman que nous avons abordé la semaine passée, Esclave de Kanye Alem. Et beaucoup de fictions ont été consacrées à l'histoire, à la traite des Noirs, notamment les conditions de vie de ceux qu'on a appelés les Afros. Alors, Claude, qu'est-ce qui fait la particularité de la fiction de Kanye Alem?
Ce thème, beaucoup de films, même de livres, ont été consacrés à ce phénomène, la traite des Noirs. Kanye n'a pas écrit un livre de plus dans ce sens. Et il ne s'agit plus des conditions exécrables des Noirs sur le trajet ou le chantier de l'esclavage, mais il s'agit de il s'agit surtout de la participation particulièrement active des Noirs même au phénomène honteux, dont le phénomène dont ils ont été longtemps victimes, au moment même où ce phénomène est décrié un peu partout dans le monde. Et le maître d'œuvre de ce phénomène très connu, le maître d'œuvre de ce phénomène sur la côte ouest africaine, c'est le roi Gezo, un roi très célèbre, le roi Gezo et ses Amazones. C'est le maître d'œuvre de ça, de l'esclavage.
D'accord.
Paradoxalement, ce roi n'est pas le protagoniste de l'intrigue. Et il n'est pas le protagoniste de l'intrigue. Et si on veut faire ce qu'on appelle une interpersonnalité, ça veut dire le rôle des personnages entre eux, ou un schéma actantiel, ça peut indiquer un cadre d'action suivant. Vous avez, enfin, au lieu que le, contrairement à ce que le peuple, on peut croire, l'action est tissée autour d'un maître d'héritier animiste, et d'Adam Dozan, qui est le prédécesseur de Gezo. Adam Dozan que Gezo va déposer. On ne peut pas tout expliquer.
C'est vrai.
Hein? Et on ne peut pas tout expliquer. Et puis, le plus notable, le maître d'œuvre. J'ai parlé de maître d'œuvre de.
Oui, mais justement, vous avez parlé alors de maître
d'œuvre. Maître d'œuvre d'héritier de.
Oui.
Si on veut suivre la caméra, le fil conducteur du récit, et c'est la chose suivante, c'est l'itinéraire 1. De la mise en esclavage de ce maître des rituels, hein, dans 2 ans, et la mise en esclavage, et 2, son retour au pays. Pays à Ouida, à Gouéloumé. Et par rapport à ce personnage, on peut classer les autres personnages en 2 catégories.
D'accord, allez-y.
Il y a les opposants, ceux qui ont aidé ce maître d'œuvre des rituels d'Ada Dozan, hein, je me mélange un peu. Il y a d'abord les opposants, ceux qui lui ont compliqué la vie. Hein. D'abord, pour son départ en esclavage, il y a bien sûr les blancs, lorsque je parle des blancs, j'inclus Félix Francisco de Souza, dit Chacha. Et eux, ils restent souvent au second plan et laissent la primeur, laissent la main libre aux Noirs même dans leur propre pays, hein, pour exécuter les basses œuvres. C'est le cas de Kenzo et de ses Amazones. Et il y a, qu'ils soient abolitionnistes ou esclavagistes, les Blancs n'interviennent pas directement, hein, sauf pour sauver leur orgueil de race, par solidarité. Je ne peux pas rentrer au fond, il y a plein de choses à dire. Hein. Il peut prendre la parole, bon, même pas publiquement.
D'accord.
Mais je crois que pour que les lecteurs comprennent un peu la trappe, il faut expliquer un peu. Et lorsqu'on arrive sur le chantier de l'esclavage au Brésil, ce maître des rituels aura beaucoup d'adjuvants. C'est-à-dire ceux qui vont l'aider à franchir les obstacles de l'esclavage.
À aller à destination.
Voilà. Il y a surtout, le plus notable, c'est quelqu'un qu'on a appelé Yoruba, un demi-affranchi de l'esclavage, qu'on appelle Soulé, qui va lui apprendre à lire et qui va le convertir même à l'islam, au vrai islam. Hein. Et il va renforcer sa force spirituelle. Et parmi les adjuvants, il y a un groupe de catalyseurs qu'il faut vraiment signaler ici. C'est un patron blanc. Hein, un patron blanc. Vous savez, pas leur amour. Ils tombent souvent amoureux de leur négresse. D'un amour sincère. Hein, d'un amour sincère. Et ces patrons deviennent, par une sorte de dialectique, hein, l'autre parlait de la dialectique du maître esclave. Ces maîtres deviennent des esclaves de leurs esclaves nègres, au nom de l'amour. Mmh. Vous voyez, d'où vont naître des mulâtres qui seront les vrais acteurs, hein, dans la révolte et l'insurrection qui va abolir l'esclavage au Brésil. Et l'exemple, surtout le meneur, s'appelle Félix Santana, le grand-père de Silvestre Olympio, selon le roman. Un grand meneur, hein, et finalement, à partir de cette insurrection à laquelle va se mêler le protagoniste qui est le maître des rituels à partir de cette insurrection, hein, et le maître des rituels va revenir au pays. Et non sans déception, hein, il va revenir au pays du Brésil. Et parce que le fils de Félix Santana, qui est Francisco Olímpio da Silva, avec lequel il est revenu, c'est le fils du meneur, il deviendra malheureusement un esclavagiste à son tour.
D'accord.
Allez, et le dernier phrase, c'est Sylvanus Olímpio, son fils, Sylvanus Epifânio, qui sera le fer de lance pour les dépendants du Togo. Il s'agit de Sylvanus Olímpio.
D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ce qui m'a surtout impressionné, hein, dans la lecture à l'heure de ce roman, c'est qu'il est très vivant. On ne se fatigue pas de le lire malgré son volume. Alors, peux-tu nous livrer les clés, hein, qu'a utilisé l'auteur?
Oui, c'est un roman très vivant. Les personnages sont vivants parce que très consistants. Hein, les personnages ne tombent pas du ciel. Ils ont toujours, pour agir, soit des alibis. Vous savez, l'homme, c'est comme ça. Hein, lorsque vous voulez commettre un crime, si vous n'avez pas d'alibi, vous êtes gêné dans votre conscience. Et les personnages ont soit des alibis, des mobiles, ça veut dire des raisons qui ne sont pas claires pour eux-mêmes, disons des raisons inconscientes, ou des motifs, c'est-à-dire des raisons réelles pour lesquelles ils agissent. Mmh. Et le style même est très vivant. Hein, le style est très vivant. Les scènes sont souvent décrites. Hein, tous les romans, souvent les événements sont décrits. Hein. On a l'impression d'assister à un film. Hein, je ne peux pas vous lire, hein, on n'a pas le temps.
Tout à fait, on n'a pas le temps nécessaire.
Et puis, y a une chose, y a pas mal d'humour, hein, dans ce récit grave, l'auteur ménage des espaces pour l'humour, hein, on rit assez. Voilà, ça rend le roman très vivant.
D'accord. Oui, mais Claude, l'interrogation qui m'a frôlé, hein, tout au long alors du livre, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller dans le fantastique, hein, ou fantastique, j'allais dire, dans un roman historique?
Oui, au lieu de parler de fantastique, ça veut dire une fiction irréelle.
Oui.
Hein, irréelle, comme dans la science-fiction. Parlons plutôt du réalisme magique. Hein, magique, ça veut dire que il y a des événements africains qui peuvent paraître au lecteur étranger à l'Afrique, hein, et surréalistes. Hein, c'est comme les incantations du maître de sel, du maître de rituel, le protagoniste, qui veulent détourner le bateau, maigrir le bateau. Détourner le bateau qui l'amène vers le Brésil, veut le détourner. Mmh. Voilà. Et ça, là, ça produit du fantastique, des choses qu'on ne voit pas dans la réalité, mais qui on peut retrouver dans un roman.
D'accord.
Et tout ça contribue à rendre le roman très agréable
et très vivant. Ouais, voilà. Ouais. Claude, il faut signaler que déjà à la fin de cette série de chroniques, nous aurons en studio Kanya Lem qui viendra également nous parler alors de ce roman Esclave et le processus même d'ailleurs est déjà en cours pour le recevoir alors dans cette émission et surtout dans cette chronique bibliothèque animée.
Oui, ce que je peux dire comme conclusion, c'est j'espère que vous avez déjà commencé les démarches.
Tout à fait.
Et puis, c'est un roman du mouvement historique. Hein. D'abord, ça retrace ça raconte l'histoire du Togo, du Bénin, du Dahomey, tout ce que vous voulez, c'est notre histoire. De la côte des esclaves, oui. Surtout, je dis doublement parce que ça montre comment l'histoire dans l'ensemble est dialectique. Hein. Le bien se fonde dans le monde, mal. C'est les fils d'esclaves, ou ceux qui ont été victimes d'esclaves, qui deviennent à leur tour des vendeurs d'esclaves. Et puis, souvent, c'est les fils de ces vendeurs d'esclaves qui deviennent des gens les plus positionnés contre les autres formes de domination, comme Sivanis Olympio. Vous voyez, l'histoire n'est jamais linéaire, l'histoire est dialectique.
Tout à fait.
C'est ce que un philosophe comme Hegel appelle la ruse de la raison.
La ruse de la raison.
Mmh. La raison ruse avec nos passions, avec de mauvais événements, avec la mort pour arriver à trouver son chemin et se réaliser. C'est ça la ruse de la raison.
D'accord.
Et c'est valable sur toute histoire.
Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir et nous allons nous retrouver le mardi prochain pour un nouveau numéro alors de cette chronique. Merci d'être passé.
À moi de vous remercier. Oui.
D'accord. Nous sommes rejoints par notre cher confrère Isidore Akolo. Isidore, bonjour.
Bonjour. Juste une question.
Mais c'est vrai que à un moment donné, je voudrais quand même qu'on continue avec les questions à Claude.
Non,
puisque c'est une chronique.
Une contribution peut-être.
Justement, une contribution.
Je n'ai pas parcouru l'œuvre. Ça m'étonne que bon, on n'a pas pu parler de la contribution du Togo dans l'esclavage clandestin. En principe, ça devait être même l'objet même de cette œuvre si j'étais à sa place et retracer et la contribution de Tchatcha et autres depuis Badagli jusqu'à Woodhome. Donc, ça serait plus intéressant. Pour moi, je n'ai pas parcouru l'œuvre, mais c'est une exhortation.
D'accord. L'exhortation Oui, c'est une exhortation.
C'est un roman. Historique.
Oui.
Et l'auteur n'a pas insisté sur cet aspect. On a parlé de Dominant, on a parlé de Wood, Romain, de Wood, tout ça. Mais ça n'a pas insisté là-dessus. Et je risque d'inventer une autre histoire à plat de l'auteur si moi je reviens trop, je m'attache sur, cet aspect.
L'autre exhortation que j'ai à l'endroit de Isidore, c'est de nous écrire aussi un livre, bien sûr, historique sur ce point, parce que je sais quand même que c'est quelqu'un qui détient beaucoup de secrets, et donc il pourra nous écrire un ouvrage là-dessus.
Il y a plein de questions. Plein de questions qu'on peut poser sur le roman.
Tout à fait. Merci beaucoup, Claude, d'être passé. Merci, Claude, d'être passé alors dans cette émission. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau et pour continuer notre débat ici en studio. Eric, c'est vous qui nous donnez notre premier sujet. Ça concerne plus la santé. Vous écrivez santé publique, opérationnalisation du premier centre des maladies infectieuses du Togo. Et c'est par rapport à cette visite alors du président de la République au centre alors des maladies infectieuses du Togo. C'était le 24 janvier dernier.
À Cara.
Bien sûr.
Alors donc, c'est une visite que le chef de l'État a effectuée à ce centre-là. Et donc, pour marquer ainsi l'opérationnalisation de cette infrastructure sanitaire est construite dans le cadre d'un programme, le programme qui s'appelle Programme de renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels. Et donc, en réalité, cet acte, cet acte symbolique, nous disons, c'est pour traduire quand même l'engagement du chef de l'État à faire lui-même un suivi régulier des différents projets de développement et surtout à renforcer le développement, les campagnes de sensibilisation sur les enjeux sanitaires ou l'évaluation même des mesures mises en place pour la prévention et la gestion des maladies infectieuses et les épidémies du Togo. Il faut reconnaître que ce centre-là est le premier dans notre pays, effectivement, qu'au CHU Sivanis Olympio, il y a quand même une unité qui s'occupe des maladies infectieuses, mais pas un centre dédié. Aujourd'hui, avec ce centre-là, on peut dire que le Togo a fait un grand pas pour pouvoir canaliser. Hein, vous savez, lorsqu'il y a une épidémie dans le pays, il est déjà question de savoir où est-ce que on peut amener ceux qui ont, ont été contaminés et ceux qui sont victimes de cette épidémie-là. La deuxième chose, c'est comment faire fonctionner le système sanitaire pour venir à bout de cette épidémie. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce centre-là, on peut déjà commencer par se dire oui, on peut quand même canaliser ces épidémies dans notre pays. Mais je pense que ce centre-là doit être suivi d'autres. Peut-être dans chaque région du pays pour dire que effectivement on pourra imaginer vous avez vu ce qui s'est passé avec la COVID. le coronavirus,
oui.
Et là c'était une panique générale et tout de suite on a pris le CHR Lomé commune pour traiter les gens, mais ça n'a pas été facile parce que c'est à partir d'avril où le truc a commencé déjà dans le monde entier en décembre 2019 et ce n'est qu'en avril 2020 que nous avons commencé par chercher maintenant où est-ce qu'on peut mettre les gens, etc. Et on a même réquisitionné des hôtels qui ont aujourd'hui des difficultés pour reprendre.
Pour se relancer.
Et il faut le dire. Et donc, à part le CHR Lomé commune, on a pris le centre des expositions de Foix. Et tout ça, ça a créé quand même une certaine panique au sein des populations. Aujourd'hui, des gens, pour aller vers ces lieux-là, ils ont peur. Ils se disent, est-ce qu'il n'y a pas encore des traces de ce virus-là qui peuvent recontaminer d'autres personnes? Et les hôtels, il faut voir l'hôtel Les Bénins, on a du tout reprendre à zéro. Il y a l'hôtel Eda Oba qui est là et tout ça. Et donc, si on avait ces centres... là, je pense que on aurait pu amener tous les malades vers là pour qu'ils soient quand même soignés.
D'accord. Isidore, ce qui est intéressant dans ce que dans l'intervention alors de Eric, c'est par rapport au fait que le chef de l'État même s'engage à faire le suivi même d'ailleurs de ses travaux et là et avec cette visite, c'est pour s'assurer alors de bon fonctionnement alors de ce premier centre.
Non, c'est à féliciter et à encourager, puisqu'on en a besoin. Et nous manquons tellement d'infrastructures sanitaires. Et si on peut mettre une telle infrastructure sanitaire au niveau de la région de la Cara, pour faire le pont entre les savanes et la région maritime, c'est à encourager. Et maintenant, vivement qu'on puisse avoir aussi un tel centre dans la région maritime, puisque aujourd'hui, le CHR, le Lomé commune, n'est plus dédié à ce genre d'opérations. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On sera encore résumé et on sera résolu à revenir à Silas Olympio, qui est aussi contigu que ça, et créer des maladies, comment vous l'appelez même?
Nosocomiales.
Donc, il faut réfléchir aussi à en avoir dans la région maritime, pas forcément à Lomé, ça peut être à Thiviers ou quelque part, pour que si une crise sanitaire advenait, qu'on puisse trouver ces deux centres-là pour pouvoir juguler, je dis bien, et la crise sanitaire.
Adam, pour ce qui concerne surtout les infections ou les épidémies, il est très important quand même que nous soyons dans la prévention. Et je pense que ce centre vient à point nommé pour cela.
Oui, naturellement. Vous savez, tout à l'heure, Eric faisait un peu l'allusion liée donc à la COVID où pratiquement tous les pays étaient sous pression. il y avait des annonces, pour certains, en tout cas, démagogiques, des États, vu l'urgence de l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan, 5 ans après, il va de soi que l'on puisse observer des stationnements pour se poser les réelles questions sur les enfants, les avancées constatées, en tout cas dans le secteur de sanitaire de nos pays africains, puis dans leur des généralités. Même si nous savons qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs même, il y a des comptes de la COVID qui sont toujours d'actualité dans des pays, puisque l'on ne peut pas comprendre à un moment donné où l'urgence était orientée vers la question sanitaire, que des personnalités puissent en tout cas en faire main basse. Mais aujourd'hui, je pense que le Togo, moins que d'autres, mais également plus que d'autres, fait des pas de géant, dont en témoigne le fait que ce centre assez moderne, assez moderne, qui vient d'être installé. Il faut rappeler même que si, pour répondre à l'une des préoccupations d'Isidore, qui en tout cas s'inquiétait du fait qu'il n'y a pas d'autres centres, je rappelle que d'après les informations, on nous a dit que ce centre vient compléter et il y a un total, mais qui ne sont pas au même niveau d'efficacité et d'infrastructure que celui de Cara. Je pense qu'il y a déjà plus de 5 ans, pas déjà de 9, du traitement des maladies infectieuses. Donc, Lomé en regorge également, mais à la hauteur de Cara.
Non, pas un centre dédié. Non.
Ouais, ouais, ouais. Pas un centre dédié. Je suis d'accord. Les unités de. Donc, je pense que l'efficacité de ce centre-là, en le mettant à Cara, c'est justement pour répondre à un certain nombre d'urgences liées au fait que Lomé, lorsque nous prenons aujourd'hui, les centres comme Dotalafia qui regorgent encore d'autres, il était opportun qu'on puisse avoir à l'intérieur du pays des centres comme ça. Mais il est rappelé qu'il y aura des efforts pour faire en sorte que toute l'étendue du territoire puisse être doté, ou moins avoir un équilibre en ce qui concerne ces centres-là, et faire en sorte que demain, si de telles urgences, puisque d'ailleurs même dans d'autres pays, il y a déjà des urgences également épidémiques qui se font déjà jour. Donc, il y a de quoi que nos pays puissent donc s'armer efficacement, puis répondre lorsque le moment serait venu, pour qu'on ne soit plus sous pression et au lieu d'éviter des décès, on en calcule. Puisque si en réalité nos États étaient bien préparés, je pense qu'il y a des vies qu'on pouvait également sauver lors de la COVID. Malheureusement, ça a été donc un exemple de plus. Et je pense que le gouvernement a pris le taureau par les cornes en installant des unités dans ce sens-là.
D'accord, oui, mais quand on parle du centre, oui.
Je vais peut-être dire, ce centre-là, pour être efficace, on lui a décerné plusieurs unités. Et je parle, par exemple, de l'unité de soins intensifs modernes. Et il y a un service d'hospitalisation, il y a une pharmacie pour assurer l'approvisionnement en médicaments essentiels. Il y a également une unité de dépistage et de stérilisation. Il y a une buanderie, il y a un espace de traitement des déchets médicaux et une morgue. Alors, ça s'entend que lorsque vous avez un centre de ce type, c'est que peut-être les gens, parfois, on parlait la semaine dernière de l'épidémie de méningite à Dakpin, et les gens arrivaient au centre de santé déjà
quand pour propager,
alors que le truc est déjà à un niveau où on ne peut plus sauver la vie des gens. Et donc je crois que l'installation d'une morgue aussi faciliterait les choses. Et il ne faut pas oublier que ce centre-là est proche de l'Institut national d'hygiène de Cara. Et donc, dès que les gens arrivent, on peut rapidement aussi faire les analyses pour savoir effectivement de quoi les gens souffrent pour pouvoir les traiter.
Alors, si nous parlons d'une autre formation sanitaire, c'est parlons alors de l'hôpital Dr Lafayette. Et Eric, vous êtes revenu également sur l'inauguration de l'ANES de Dr Lafayette à Cara, et vous écrivez hôpital d'Otalafié de Kara, chiffres clés et domaines d'intervention pour une meilleure accessibilité des soins de qualité aux populations du Septentrion. Et également, Adam, vous revenez sur le sujet, vous écrivez « L'hôpital de référence d'Otalafié ouvre une annexe à Kara, un engagement concret et optimal en faveur de la vie ». Alors, Eric, ce qui m'intéresse, bien sûr, sur votre titre, c'est la dernière partie alors du titre, quand vous écrivez « Pour une meilleure accessibilité des soins de qualité aux populations du Septentrion ». Justement, l'expérience de Lomé a été faite et beaucoup de gens se disent « Mais écoutez, par rapport surtout à l'accessibilité de ce centre, il y a toujours un couac là, Eric ».
C'est pour cette raison que nous sommes partis des chiffres clés. On nous dit que cet hôpital de référence a coûté la bagatelle somme de 6,4 milliards. 6 milliards 400 millions. Vous imaginez le coût d'installation. Alors, c'est vrai que c'est créé pour la population. Mais quand vous avez ce montant-là, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut amortir tout ce coût-là. Et donc, nous sommes basés sur ces chiffres-là pour poser la question essentielle. Est-ce que les populations, enfin, le Togolais lambda, a la capacité d'aller vers ce centre-là? Puisque, déjà, à Lomé, c'est très difficile pour le Togolais lambda.
Le
Togolais commun, c'est très difficile parce que, d'abord, le coût de comment dire...
la consultation.
De consultation, d'hospitalisation et des soins. Puisque les machines, tout ce qui est installé là-bas, revient extrêmement cher. Nous tous, nous avions toujours demander qu'il y ait au moins
un hôpital de référence, vous voulez dire?
Non, pas un hôpital,
plateau, mais
que le plateau technique soit quand même amélioré dans chaque région. Mais là, on voit très bien que le plateau s'est amélioré, mais la conséquence, c'est que le coût est peu... excessif pour la population.
D'accord. Mais Isidore, la qualité a toujours un prix, nous dira-t-on.
Vous savez, c'est le rôle régalien d'un État ou d'un régime de pouvoir subvenir aux besoins vitaux de sa population.
Et la santé fait partie des besoins?
La santé fait partie des besoins vitaux. Je me souviens, quand on était tout petit, on allait gratuitement faire les premiers soins. Même quand vous êtes malade, on a le cahier de visite sanitaire qu'on amenait. On ne vous prend aucun rond. On ne vous prenait aucun rond à l'époque. Mais tout cela a disparu. Le premier soin a disparu. On prenait des bons indigents. Mais il y a un budget pour ça. Et selon mes informations, le budget existe toujours. Ça va où? C'est la question qu'on se pose.
Tu le vois dans le...
Dans la loi de finances. Oui, bon, moi j'ai un ami qui s'occupe de ça.
Mais dans la loi de finances, il faut que cela transparaisse.
Peu importe. Moi j'ai un ami qui m'a confirmé que le bon indigent existe toujours, mais c'est pour une catégorie de gens donnés. Ce n'est pas les nécessiteux qui en bénéficient encore, juste à présent.
Mais est-ce qu'avec le développement de la MU, l'avancement de la MU,
oui, est-ce que... Je reviens maintenant à votre question.
Oui.
Oui, ça c'est pour les richissimes, hein, ceux qui ont de l'argent. Moi, je ne peux pas me permettre ce luxe d'aller faire mes analyses et à Dr. Lafia.
Non,
permets que... Oui, je souhaiterais tout simplement que le centre hospitalier de Bain soit équipé des réactifs, et consistant pour me faire des petites analyses et que je puisse avoir mes petits soins, que d'aller dans les grands où les gens meurent comme des mouches. Je ne vais pas citer des exemples ici. Donc
moi, fondamentalement, ça me crée un problème. Est-ce que c'est un partenariat privé-public? Puisque ce n'est pas l'État togolais qui a construit l'hôpital à Lafia. Lafia dont on parle. On parlait avant de Saint-Pélegrin. On parlait de Saint-Pélegrin et aujourd'hui on parle de Dr. Lafia qui est l'émanation ou une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale qui va se comporter comme un financier ou un entrepreneur pour rentrer d'abord dans ses fonds. Or, on sait comment on alimente les caisses de sécurité sociale. C'est par nos contributions. Donc, voilà, il y a un amalgame où je ne dirais pas...
Vous voulez parler de confusion?
Non, pas confusion, ni le terme échappe, mais mélange de genre.
D'accord.
Et que ce soit le président de la République qui aille... faire l'ouverture, c'est comme si c'est l'État qui était le promoteur. Moi, ça me crée un petit souci.
Est-ce que c'est pas un parapublic
Non, personne n'a eu des informations là-dessus.
D'accord.
Si vous en avez, vous pouvez nous en informer.
D'accord.
Mais ce que je sais, c'est que le propriétaire, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale.
Tout à fait, nous le savons tous. Alors, Adam, je voudrais,
par rapport à ce que Isidore a dit, c'est qu'il ne faut pas non plus décourager les populations à aller vers ces centres parce qu'il y a des maladies que dans les autres centres on ne peut pas forcément enfin
oui, mais je plaide pour que les plateaux techniques soient améliorés et bien garnis dans les centres et si cas de besoin on peut nous référer vers ces unités et de high-tech.
D'accord. Oui, Adam, moi, ma question que je posais justement à Isidore, c'est que, mais oui, c'est vrai que la qualité a un prix, mais au-delà de tout, il faudrait quand même que le développement ait un visage humain et pour que les populations soient prises en compte.
Oui, bon, naturellement, ce que dit Isidore n'est pas rejeté, mais ce qu'il faut tenir, ce qu'il faut réaliser, c'est en fait le fait que ce soit dans un centre hospitalier public, accessible à tous, ou dans des cliniques, de toute évidence, il y a des pathologies qui induisent nécessairement, qu'on vous prescrive, en tout cas, des soins que vous ne pourriez pas trouver sur place. Peu importe, si on ne l'avait même pas érigé, on vous les prescrira. Et lorsque vous n'avez pas des moyens, de toute évidence, ou vous êtes obligé d'en chercher, et la plupart du temps, que ce soit dans des pays voisins, puisque, entre-temps, avant l'installation de ces hôpitaux-là, on nous disait, voilà, il y a des soins, des sites, là, vous allez dans des pays voisins, la plupart du temps, les gens s'orientent vers le Ghana.
Oui.
Donc, je pense que ces centres-là, au-delà de l'aspect... au-delà de l'aspect humain dont parle Isidore, qui n'est pas rejeté, contribueront en réalité une sorte de proximité, et feront en sorte que lorsqu'on serait dans ces cas de figure, qu'on puisse au moins s'abstenir au moins de déplacements qui peuvent naturellement peut-être compléter ce qu'on a ou ce qu'on pourrait dépenser dans les publics pour nous faire soigner à proximité. Donc, moi, je pense que c'est le premier facteur qu'il faut véritablement donc relever dans ces centres-là, peu importe, peu importe leur structuration, peu importe leur régime qui concorde, peu importe la cherté dont on parle.
D'accord.
Mais au-delà de ça également, je pense que il y a des informations qu'il faudrait mettre à l'actif de la population. Par exemple, vous savez que le centre de Dr. Lafier regorge une morgue, mais beaucoup ne le savent pas. Une morgue qui a des contenances assez importante que non peu importe parce que il vous en souvient que il fut des moments où vous allez pas là vous avez et c'est ce qui a conduit d'ailleurs même à avoir des morgues sauvages qui en tout temps qu'on avait aussi dénoncé mais aujourd'hui on a une alternative on s'en préoccupe pas donc ce qui est nécessaire c'est justement mettre à la disposition de la population en tout cas ce qu'il y a dans ces centres là. Moi, je pense que c'est ce qui est important. Après, on va parler du prix qui est aussi un facteur à prendre en compte. Mais il faudrait quand même qu'on soit renseigné sur ce qu'il y a Et lorsqu'on serait en face d'une telle pathologie qui conduirait entre temps qu'on nous prescrive l'étranger, qu'on puisse les avoir sous la main.
D'accord.
Alors, je voudrais faire un plaidoyer. Hein. Mm. Vous savez, quand vous n'avez pas l'information, c'est difficile de vous aventurer vers un tel centre de santé. Parce que vous voyez, on parle de high-tech, on parle de technologie, d'imagerie avancée. Mais pourquoi ne pas, par exemple, faire des journées portes ouvertes de ces deux hôpitaux-là pour que les populations puissent avoir les bonnes informations. On a dit au départ, quand on parlait de Saint-Pélegrin, c'était coopération avec un hôpital de référence en France, un hôpital militaire américain. Et donc, aujourd'hui, je pense que quand c'est devenu Dr Lafia, on a compris tout de suite que c'est une société entièrement togolaise. Enfin, un hôpital togolais. Et donc, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'en est chargée. D'où même, quand on a fait la coupure de ruban, c'est la directrice de la Caisse qui elle a même prononcé un discours. Et donc, je dis, aujourd'hui, on a un hôpital où les gens, au lieu de chercher, pendant que vous avez des parents qui sont malades et qu'on ne peut pas soigner sur place parce que vous n'avez pas ce qu'il faut ici, au lieu d'aller chercher un visa, le temps de l'envoyer et tout ça, peut-être des gens peuvent mourir, allez directement vers ces centres-là. Je pense que l'idée première, c'était ça. Maintenant, par rapport au coût, c'est vrai que, tu l'as dit, la santé n'a pas de prix. Et parfois même, quand les gens sont malades dans nos familles, qu'est-ce qu'on fait? On cotise pour permettre quand même aux gens d'aller, même si c'est au Ghana, même si c'est au Burkina, on fait ça pour permettre aux gens d'aller se soigner. Maintenant, aujourd'hui, nous avons cette technologie-là proche de nous. Il ne faudrait pas que les gens se découragent à y aller, mais je fais toujours mon plaidoyer en demandant qu'on fasse une journée porte ouverte pour que les populations puissent connaître les réalités de ces...
D'accord, merci. Rapidement.
Je voulais juste faire une comparaison.
D'accord, allez-y.
Hein, dans le bâtiment, vous connaissez l'habitat. Ouais. Et en face, au niveau du
collège séminaire.
C'était l'État togolais qui avait bâti ça. Et c'était à un prix abordable.
Ouais.
Et quand la Caisse nationale de sécurité sociale a voulu construire son habitat, qu'on appelle aujourd'hui la Caisse, en face de l'université, vous savez, mais c'est pour les riches. C'est ça.
D'accord. Alors, on va aborder un autre sujet, le sujet que j'évoquais même d'ailleurs au début alors de cette émission. Bien sûr, c'est par rapport à cette visite alors du Conseil spécial chargé des affaires politiques à la présidence de la République togolaise à N'Djamena. Bien sûr, l'image, on a vu circuler les images hier sur les différentes plateformes. Et, oui, Adam, vous êtes revenu sur le sujet, vous écrivez, Pascal Bodjona transmet un message spécial de Faure Gnassingbé à Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, on a justement peut-être le droit de savoir quel a été vraiment le message spécial dont vous parlez.
Non, bon, c'est vrai. Ailleurs, on nous a parlé qu'il y avait des têtes à tête en coulisses, mais nous savons, lorsque vous prenez ces deux pays-là, en tout cas, ces deux rapprochements illustrent une fois de plus l'engagement des deux chefs d'État, notamment Faure Gnassingbé et Idriss Déby Itno. Mahamat Idriss Déby a consolidé les fondations d'une Afrique plus forte et assez résiliente. Nous savons également que, surtout lorsque le président Faure Gnassingbé est au front en ce qui concerne les questions de paix, et vous savez, on se pose des questions parce que lorsque vous prenez sa récente visite à Kigali, n'était pas anodin, même si nous savons que les questions économiques, les partenariats sud-sud étaient mis en avant. Nous savons véritablement que Kigali et la RDC travaillent des moments assez difficiles, conflictuels d'ailleurs même. Et c'est vrai que cette dynamique, cette politique distraite, on l'a dit, hein, la diplomatie distraite a été toujours celle-là qui réussit. De plus, c'est le Togo évite de faire du fanfaronnage en ce qui concerne sa discrétion pour porter, hein, en tout cas, une main en ce qui concerne l'apaisement puis la paix dans la sous-région. Je n'oserais pas le dire, parce qu'on a dit qu'il y a des côtés voilés, mais nous savons que la dynamique diplomatique exemplaire des deux pays est assez légion, et je pense que c'est sur ces aspects-là que naturellement le chef de l'État Fonia Sigbe pourrait donc transmettre donc ce message-là à son homologue Mahamat Idriss Déby. C'est vrai, le contenu de notre article a parlé du symbole de coopération renforcée. Un renforcement des relations Togo-Tchad. Vous savez, le Togo entretient de bonnes relations avec le Tchad il y a longtemps sur plusieurs aspects. Donc je pense que le contenu est assez édifiant, mais est orienté spécialement sur des questions de paix, où le pays également fait le front entre un certain nombre de pays qui traversent des moments assez difficiles, et Fonia Sigbe a toujours cette main tendue-là d'apporter une contribution pour apaiser. Et là, il faut le faire. Donc, c'est un peu ça.
Alors, mais Isidore, quand on a vu les images hier et que ça a été même relayé, hein, sur les différentes plateformes et ces autres, on aurait pensé quand même qu'il y a une information très importante que le président Fonia Sigbe voulait donner à son homologue, alors Mahamat Idriss Déby.
Non, moi, je vais vous décevoir. Hein. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Mais Fonia Sigbe a envoyé un émissaire auprès de son homologue. Ça serait à... Où est l'information? Moi, je n'ai aucune information là-bas. Et venu, soit on serait dans la spéculation. Puisque, au sortir de cette rencontre, aucun communiqué.
Rien de concret n'a été dit.
Rien de concret. Bon, je sais que Fonia Sigbe et Idriss Déby se partagent beaucoup de choses. Le mot de dévolution du pouvoir, de père en fils, mais ils se partagent beaucoup de choses. Et le rôle que Idriss Déby est en train de jouer au niveau du Soudan, le rôle trouble. Mais on ne sait si c'est la diplomatie, ce serait Robert Doucet, ça c'est hautement politique. Est-ce que c'est pour le convier à adhérer à l'AES? Bon, tout ça là, c'est des spéculations. Pour moi, c'est un événement. Je ne vais pas trop m'attarder, hein, sur des choses que je ne maîtrise pas.
D'accord. Oui, mais Eric, est-ce que c'est la personne de Pascal Boudzona qui a fait que finalement il y a eu tellement de relais sur cette information? Personnellement, je me pose la question.
Mais le fait que ce soit Pascal Boudzona, tout le monde a pensé à une visite hautement politique, puisque Pascal Boudzona a un rôle bien défini à la présidence.
Oui, conseiller politique
du chef de l'État.
Tout à fait.
Et donc, je crois que quand même à sa sortie d'audience, il a eu à dire que quand il y a une situation, des situations de sécurité en Afrique, que les deux présidents s'échangent. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a été envoyé. Et,
mais est-ce que là, il n'a pas été...
Lui-même, il connaît le contenu. Est-ce qu'il connaît le contenu même du message?
Et je voudrais dire que tout de suite, quand on a vu ces images-là hier, on a bien dit que c'est un message confidentiel.
Il ne maîtrise pas.
Nous-mêmes, nous... je me suis posé la question, à quel moment on est venu nous dire exactement les raisons pour lesquelles on a dépêché des émissaires auprès d'autres chefs d'État? On nous dit, oui, que tel président a envoyé un émissaire pour...
C'est un événement.
Mais c'est des choses aujourd'hui qu'on peut faire au téléphone. Mais c'est parce qu'il y a des choses encore plus confidentielles que ça, que on envoie un émissaire, à mon avis, hein. Donc je pense que Oui, Pascal Boudiona a rencontré le président Déby. Et là, c'est qu'il y a un message qui va au-delà de la diplomatie.
Mais normalement, Isidore, quand on vient même d'ailleurs au pays, il est très important quand même qu'on fasse aussi un compte rendu, puisque c'est vrai, nous sommes en train de faire des spéculations pour le moment par rapport à ce sujet. Ça veut dire que, allez, il n'y a pas un compte rendu aussi qui a été donné pour qu'on sache exactement ce qui était au fond alors de ce message confidentiel, enfin dit confidentiel.
Mais tout a été dit que c'est confidentiel.
C'est fini.
Donc, c'est sous le coup de l'embargo. C'est l'embargo. Confidentiel, c'est l'embargo. Même si toi, tu le sais, on va tasser de recel d'informations. Tu ne peux pas divulguer ça. On dit que le message est confidentiel.
Oui.
Mais si tu arrives à décrypter le message, donc tu es dans le recel d'informations.
Et là, vous posez une question, savoir vraiment si la personne, même l'émissaire du président de la République, même connaît le contenu.
Non, puisque, ne peut pas, puisque c'est confidentiel.
Oui.
Il n'a pas connaissance du contenu. Et quand vous voyez même le protocole, mais il n'est pas assis à la droite pour discuter directement ou à côté du président, mais il est resté à l'écart. Donc il n'est qu'un émissaire.
D'accord. Alors, on va s'intéresser. Oui, justement, on reste dans la politique pour s'intéresser à cette décision de l'ANC. On en parlait hier où Isidore, vous avez appris cela aussi avec nous, où le bureau national de l'ANC a exclu pratiquement 7 de ses membres. Et est-ce que vous avez été surpris par rapport à cette décision du bureau?
Non, pas du tout. Je vous le disais l'autre fois, que cette sanction viendra parce que il y a une discipline dans toute organisation, même dans nos associations, il faut de la discipline pour parler d'un parti politique. Mais c'est monnaie courante. Et je me souviens, il y a de cela 3 mois, si je ne m'abuse, Front Touche pas ma constitution a exclu de ses rangs 3 partis politiques. MDC de Tchassona, si je ne m'abuse, et parti du peuple, c'est ça, non? Santé du peuple.
Santé du peuple.
Oui. Et le nid de... Qu'on appelle-t-on?
C'est
Agneron. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas... Ils ne respectent pas la ligne de qui se sont fixés. Mais ça m'étonne que les gens en font leur chou gras, disent que, bon, la ANC a fait ça. Mais, vous savez... Ce n'est pas la première fois. Hein. Moi, je vais vous citer seulement un seul nom. Patrick Johnson et Patrick John Doe, le statisticien qui avait fait beaucoup de révélations. Il fut même député de l'ANC à l'Assemblée. C'est lui qui a révélé les doublons. Je ne sais plus lors de quelle présidentielle. Mais quand... Il s'est senti en déphasage. Il a pris ses distances vis-à-vis du parti, sans tabour ni trompette. C'est pas pourquoi aujourd'hui, mais ceux qui ne se sentent plus en hauteur de sainteté avec la ligne du parti vont chercher à dire que bon, on a fait de trop. Mais ils savent que c'est comme ça, la ligne de l'ANC. Mais vous ne pouvez pas faire ça à unir. Même si à unir, bon, les gens rouspètent, mais ils sont tenus pour unir au moins. Ils ont les moyens d'État. Ils ont les moyens d'État. Mais pour que tu puisses jouir de tes prébendes. Et c'est la seule impression que j'ai de la chose. Ce qui s'agite aujourd'hui, disait là. Moi, je le souhaite bon vent. On a vu le cas de ça souvient d'Ossé Agnon à l'UFC avec Agamon. Je ne sais ce qu'ils sont devenus. On a connu plein de choses. Quand ceux-là sortent, il faut qu'ils aillent faire leur preuve ailleurs. Mais la plupart des temps, ils sombrent dans l'anonymat.
D'accord. Adam, est-ce que c'est dans l'ordre normal des choses? Cette exclusion du bureau national de l'ANC.
Tout dépend de la structuration et de la rigueur disciplinaire au sein du parti. Mais là, on se pose la question, lorsque vous prenez en tout cas l'effectif l'effectif de tous ces gens-là qui sont allés pratiquement dans le même sens. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas une décision arbitraire? Parce que quelque part, même si à un moment donné, nous sommes en politique, hein, je pense que nous avons les tests, nous avons le bon sens. Et nous avons également l'environnement qui dicte à un moment donné, en tout cas la stratégie à adopter, l'essentiel étant d'engager davantage d'opinions en sa faveur. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux, c'est beaucoup. Et avant eux, il y en avait également. Ça veut dire dit quelque part qu'il n'y avait pas d'unanimité en ce qui concerne la ligne, entre guillemets, imposée. Entre-temps, sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'environnement politique que le Togo traverse aujourd'hui. Puis on parle de la question de la 5e République, on nous parle de la participation des élections régionales, etc. Donc ça voudrait dire que beaucoup, unanimement, n'étaient pas d'accord. Sénatorial également.
Oui.
Donc beaucoup n'étaient pas d'accord. Et à partir du moment où vous êtes dans un parti politique, d'abord c'est un espace public, hein. Contrairement à ce qu'on pense que voilà, c'est pas une sorte d'épicerie.
Non, non, le parti politique mais intervient dit, dans l'espace public.
Oui, bon, c'est pas grave. De toutes les façons, ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais dire de toutes les façons, ce n'est pas une c'est pas une épicerie où une seule personne est en droit de prendre une décision qui s'impose à tous. En tout cas, moi, c'est un peu l'idéal.
Mais c'est le bureau national qui a pris
le bureau national, ça voudrait dire quand même qu'au sein du bureau national, il n'y avait pas d'unanimité en ce qui concerne cette prise.
Mais s'il y a la majorité, donc, je pense que s'il y a la majorité,
oui, bon, je pense que oui, ça a passé. Donc,
tu t'y allais pas. Ou tu
maintenant, quand il y a, moi, c'est l'effectif qui m'étonne.
Oh.
S'il y avait la majorité qui prenait une telle décision, je pense qu'on ne devait pas arriver à une telle défaillance ou négligence de ces membres-là qui sont aujourd'hui exclus. Mais quand cela ne tienne, je pense que si on s'en tient sur la voie de la majorité, ce qui s'exprime en politique, en démocratie, je pense que c'est une décision qui concerne l'ANC, mais quand même, il y a des motivations à pouvoir quand même s'interroger sur la carrure même de ces personnalités. Oh. On se pose des questions sur le lendemain de l'ANC. Puis c'est ce qui est important. Nous voulons des partis politiques qui tiennent dans le temps et puissent développer des actions politiques qui vont dans le sens de l'intérêt général.
D'accord. Oui, mais Eric, c'est vrai que ce que dit Adam me fait en quelque sorte poser cette question. C'est vrai que quand on prend un certain Robert Olympio, entre-temps, quand il a fait même d'ailleurs ses premiers pas sur la liste même d'ailleurs des sénatoriales et tout, c'est vrai, ça a créé des débats autour de justement alors de cette position. Et il a eu affaire des déclarations où il disait même d'ailleurs que dans notre parti, en parlant de l'ANC, c'est du narcissisme de telle enseigne que ce que je pense, c'est ce qui sera adopté par tout le monde. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas quelque chose quand même qui ne va pas au sein du parti et que déjà c'est cette position ou cette divergence alors de position exprime.
Il faut dire que quand vous êtes membre d'un parti politique et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous essayez de mettre cela dans vos réunions ou dans vos congrès, tout ça, et que vous ne trouvez pas de solution, la chose la plus simple à faire, c'est de démissionner. Mais lorsque vous restez dans le parti et que vous prenez des décisions à l'encontre des décisions du parti, c'est que vous-même, il faut savoir qu'on va vous exclure. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu d'autres qui étaient déjà là. Ils ont posé les mêmes actes. La sanction était tombée. Ils ont été exclus. Et pourquoi pas vous? Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que c'est parce que il n'y a qu'une seule personne qui décide de tout au sein du parti. Vous avez fait combien d'années dans ce parti? Vous n'êtes pas un nouveau membre. Donc, vous connaissez les règles.
Même vous êtes parmi les membres fondateurs.
Les membres fondateurs. Et même là, vous étiez là quand on excluait les autres pour indiscipline.
Peut-être que vous avez participé même d'ailleurs à cette décision.
Et justement, et donc aujourd'hui, c'est votre cas, il faut l'accepter. Si vous voulez créer d'autres partis ou vous voulez La voie est libre, mais s'en prendre aux gens dans le parti, moi, c'est ce qui ne m'a pas plu. Vous avez pris une décision, le parti n'est pas d'accord avec vous, et il faut s'attendre à une sanction. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est que le parti doit continuer à vivre, même sans vous. Parce que moi, mon combat aujourd'hui, c'est qu'il faut que les jeunes émergent dans nos partis politiques. Vous savez qu'il y a un blocage. Et les jeunes qui militent dans les partis politiques n'arrivent pas à avoir leur place. Et donc, s'il y a de ces situations-là, c'est qu'on doit faire monter quelqu'un. Vous aviez un poste de responsabilité. Alors, il y a quelqu'un qui doit monter, il y a un jeune qui doit avancer. Pour moi, c'est la chose la plus simple à comprendre.
D'accord. Et bien, Isidore, est-ce que finalement, le parti ne se vide pas lors de ses membres?
Non, pas du tout. Le parti n'est pas composé de 10 personnes. Pour dire que cette personne a été exclue.
Mais ce n'est pas la première fois quand même qu'il y a eu exclusion.
Non, écoutez, je te dis que, il y en a d'autres aussi. C'est des courants de pensée qui s'affrontent. C'est des courants de pensée.
Et c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal.
C'est comme ça le parti peut vivre. Oui.
Mais si votre courant ne passe. Les idées de votre courant ne passent pas, ce n'est pas l'occasion de faire une fronde et ramer à contre-courant. Alors là, ça veut dire que vous n'avez pas une conviction. C'est très simple.
D'accord. Alors, nous allons mettre fin à ce débat ainsi et donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Ils peuvent nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 ou nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Un peu mal. Bozambo.
Ah, Bozambo. Mais ça, oui. Ça fait longtemps.
Oui, les radios, ça me fait peur maintenant.
D'accord, allez-y.
Appeler les radios.
Ok, merci, allez-y.
Ok, ça va aller. Je prie les gens du ANC comme... Il veut être rigoureux dans leur parti, mais il reste quelque chose. Donc, ils n'ont qu'à faire une assise pour trouver où se trouvent les fautes. La fois passée aussi, les gens du diaspora, ils ont dit quelque chose, qu'ils ont enlevé quelques membres de l'ANC. Ils ont refusé de quitter. Et jusqu'à présent, ils sont là. Mais les diasporas qui financent quelques parties de l'argent de ce parti-là. Pourquoi il y avait des gens qui donnent l'ordre, il y avait des gens qui ne donnent pas l'ordre? Donc les gens du ANC doivent savoir que si aujourd'hui vous êtes puissant, demain d'autres seraient puissants plus que vous. Donc asseyez-vous une table de l'ANC pour discuter ça, pour trouver une solution. Ma deuxième proposition, donc... La fois passée, nous avons vu sur la télé ou bien sur WhatsApp partout qu'on nous a amené beaucoup des ambulances. Où sont ces ambulances-là?
Où sont ces ambulances? Des ambulances
Oui.
Mais entre-temps, justement, il y a les matériels qui ont été distribués.
Avec
oui, ces matériels ont été distribués dans les centres de formation sanitaire.
Oh, vous avez vu quelque part s'il y avait d'accident maintenant, on appelle 117... Ça ne vient pas.
Vous êtes où à Zaou, c'est ça?
Non, je ne suis pas à Zaou, je suis à Lomé.
Vous êtes à Lomé?
À Mkavu.
Mais est-ce que vous avez fait un tour peut-être alors dans les centres de santé?
J'ai fait tout de centres de santé, je n'ai pas vu.
D'accord. Merci beaucoup, Bozambo.
Merci
pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Nous écrit aussi hein, sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Didier. Comment vous allez?
Ça va.
D'accord, allez-y.
Bon, moi, j'ai deux préoccupations sous le cas de l'ANC. Bon, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la directive du parti, un homme civilisé ou bien un homme responsable qui quitte le parti, s'il était majoritaire, ils allaient faire partie. Les autres. Quand les gens, les autres étaient sanctionnés, ils participaient aux sanctions. Pourquoi il n'a pas crié? C'est vraiment honnête dans ce pays. C'est comme ça. C'est quand on est dit tellement que les enfants n'ont plus de repères. Vous êtes dans un parti, ça ne va pas. Partez, vous allez faire autre chose que le parti dit. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas normal, c'est pas responsable même. Et, moi, je laisse mes yeux voir, comme je dis en Milan, voir ce que les députés, comment on appelle, ceux qui vont élire là, les conseillers,
les
sénateurs, je vais voir ceux qui vont les élire. Si c'est le président, il faut qu'il va le nommer. On va voir, là, on verra comment le pays là fonctionne. Secondo, je voulais parler sur le cas de Bodina. Moi, je ne suis même pas de question à dire, parce que Bodina a tenté l'opposition. Il a vu que l'opposition n'est pas facile. Faciliter l'opposition au Togo, c'est comme tu as déjà fait vécu ton enfer. Laissez-nous qui avons nos petits boulots et puis on crie à la radio. Faire l'opposition s'engager, c'est pas quelque chose de facile hein, au Togo. Hein. Donc, on est avec nous-mêmes, mais ils vont partir. Même moralement, mais ils vont vous détruire, quoi. Donc, moi, quand je vois un opposant, c'est mes exemples, c'est les gens que moi je prends comme exemple. C'est-à-dire, ils sont audacieux, ils sont courageux. Il faut être courageux avant de faire l'opposition au Togo. Bon, Dieu, il a tenté, que ce n'est pas de l'eau, hein, et puis il est retourné à sa tanière. Donc, bonne salut. Allez, remettre un papier à quelqu'un. Moi, je ne vois pas qu'on va parler de ça. Là. Il y en a plein qui se passent dans le monde. Merci beaucoup. Merci,
Didier, pour votre intervention 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous, c'est Évangéliste Senghor.
Voilà. Bon, à travers vous là-bas, je voudrais saluer vivement, sincèrement, ma petite sœur Awadiangri, pour ses œuvres où le chef de l'État était le papa pour Yogura Kara. Vous savez, c'est ça qu'il faut. C'est le travail. Elle est en train de travailler, c'est bon. J'interpelle aussi les autres institutions de l'État, le port autonome de Lomé avec le vieux notre papa Bignon. Il y a OTP qui est devenu SNPT avec monsieur qui vit là-bas. Et bon, a fait de la même chose. Vous savez, monsieur le journaliste, vous qui êtes au plateau là-bas, je ne sais pas si vous avez encore la mémoire, ou à l'époque, au temps de l'OPAC, à l'époque, au temps de Bagna. Il y a Bagna, il y a monsieur Koubier, il y a Tchakadanga et autres là. Mais dans le temps, l'OPAC payait l'armée togolaise. Je le réitère, l'OPAC payait l'armée togolaise. L'OPAC a fait des routes dans ce pays. L'OPAC a fait beaucoup de choses. Il ne s'agit pas que les gens sont dans des institutions, des directeurs, ils sont là les mains croisées. C'est pour cela que je jette des pleurs à ma petite soeur Elie Davadé pour son travail. Deuxième volet. Bon, c'est bon. Et l'hôpital, comment vous l'appelez là?
Docteur Lafier.
Laquelle veut en quelque chose là?
Docteur Lafier.
Docteur Lafier, voilà. Il ne s'agit pas de construire l'hôpital avec beaucoup de références, mais c'est le prix. Il faut qu'on puisse voir les frais d'hospitalisation, les produits, il faut que ça soit un peu rabaissé pour la population. Supposons que le docteur Alassane va à Kara, chez moi, un pays qui a bien là-bas, à pauvreté, à redose. Qui sont ceux qui viendront là-bas? Non! C'est vrai, elle est en train de faire un bon travail, mais il faut qu'on voit aussi, par exemple, à Lomé, ici à Gouin, combien de personnes qui vont là-bas, si ce n'est pas les autorités, là. Hein, messieurs les journalistes, il faut voir ce point-là. Il ne s'agit pas de construire, c'est bon, et de verser des milliards.
Mais on construit ça pour les privés, les autorités, ou bien on construit ça pour la population togolaise.
D'accord. Merci, Évangéliste Senghor. Il y a Nathanaël Douty qui nous suit également et qui écrit: une question est d'avoir un hôpital de référence et une autre question est d'avoir les moyens pour y aller si c'est pour aider la population, vu que cette population, cette même population est au bout du rouleau. Pourquoi ne pas permettre à ce que les coûts soient moindres? L'État peut même subventionner certains produits et tout. À l'heure où l'on parle, sachez qu'il y a plus qui vont vers le Ghana ou le Burkina Faso pour se faire soigner. Cela est dû aux coûts qui sont réduits comparés aux nôtres avec les mêmes matériels. 90 86 35 35. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
C'est Wiao depuis Noumpé.
Ah, monsieur Wiao depuis Noumpé, allez-y.
Non, toujours c'est pour appuyer celui qui vient de sortir là. Vraiment que Awa Dingrid, elle fait du bon boulot. Bah, je la jette des fleurs. Elle n'a qu'à continuer comme ça. Dieu va la bénir. Elle a mis ça, elle a fait Dr. Lafia Akara. C'est pour un but. Celui qui est malade depuis Dapan, au lieu qu'on l'évacue jusqu'à Lomé, on sait qu'il doit atterrir à Kara et il va s'arrêter là-bas. Celui qui a ce codé, il peut revenir ici que d'aller à Lomé. Vraiment, je la jette des fleurs. Que Dieu la garde en bonne santé pour qu'elle puisse faire beaucoup de choses pour le Togo. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Wiao, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, et c'est monsieur? Pardon?
Nuru.
Ah, ok, d'accord, je vois. Allez-y.
C'est tout juste affaire d'hôpitaux, là. Ce ne sont pas des instances. Bon, en fait, comme on dit maintenant, c'est Awadé qui fait ça, de la jette les fleurs. Et si c'était l'État togolais, ce ne sont pas des instances qui bossent. L'hôpital, l'argent qu'on a pris pour construire, faire, acheter les trucs pour venir meubler, dire quelque chose, on pouvait prendre cet argent pour un hôpital, arranger 3 ou 4 hôpitaux dans les régions et diminuer le prix pour permettre à la population, là-dedans, le paysan qui est dans la ferme, difficilement pour quand il a malade pour trouver 5 000 pour venir à l'hôpital. Sinon, c'est les autorités qui vont aller à droite à l'ancien. Et c'est les autorités. À Kara, il y a combien d'autorités là-bas? Mais les paysans ne pourront pas aller, ils ne peuvent pas faire les compétences. Tout ça, c'est zéro. C'est le surplace. On sur le bouchon, on ne sait pas comment nos autorités réfléchissent. Je ne comprends rien.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moreau, puisque nous avons un peu de difficulté à écouter Monsieur Moreau dans son intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Ah, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est Patrick.
C'est
toujours commandant aussi.
Voilà, c'est le commandant même à l'île.
Allez-y.
Comment vous allez ce matin?
Ça va pas, la grâce de Dieu.
D'accord. Tout d'abord, je vais quand même féliciter votre confrère Mbouraze. Dans l'émission d'Adede hier, dans l'après-midi, il a fait un bon développement concernant l'exclusion des membres de l'ANC. Je crois que son analyse est vraiment pertinente. Puisque hier matin, dans la même émission, quand j'avais appelé, votre confrère Urière a semblé dire des choses. Bon, je ne vais plus revenir sur ça, mais réécouter l'émission de Dadede hier avec l'apport d'Ambroise, je pense que c'est bon. C'est là où je veux en venir dans l'émission d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai, si quelqu'un est discipliné, on ne peut pas l'autoriser à continuer à militer dans un parti. Je suis parfaitement d'accord. Mais posons-nous la question de savoir pourquoi ces gens sont arrivés jusque-là à bouder. Pourquoi ils ont des idéaux contraires actuellement au parti? Au départ, est-ce que c'était comme ça? Il va falloir que ce parti, le bureau de ce parti-là, fasse aussi des analyses pour voir qu'est-ce qui se passe. Comprenez aussi, hein, si une seule personne, deux, trois, qui sont déjà exclus, c'est déjà de trop. 10 jusqu'à 7. Je le dis, je le répète, je ne cautionne pas l'indiscipline. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que ces gens... Olympio, tout le monde connaît Olympio. Hein? Olympio, tout le monde le connaît bien. C'est des gens qui sont... C'est des gens, vraiment, qui pèsent un peu, si vous pouvez me prêter le mot. Des gens qui sont exclus de ce parti, c'est des gens qui pèsent un peu dans ce parti. Voilà, donc il va falloir que ce parti-là fasse des analyses internes pour éviter ces espions dans les jours à venir. Pour finir, je vais profiter de votre antenne pour interpeller un tout petit peu les responsables des postes de péage. S'il vous plaît, s'ils peuvent quand même nous faciliter la tâche, arriver au niveau des postes de péage, si on peut payer par Simoni ou par Fouz, Miss Baez, comme la nouvelle appellation, ça serait mieux. Parce que ça pose des problèmes avec affaire de monnaie au niveau des pots de péage. Et ils disent qu'ils ne prennent pas Miss Baez ni Move. Alors qu'on a un gros bip de 10 000, ils nous disent qu'il n'y a pas la monnaie. On est obligé d'attendre. Et ça crée vraiment de l'embouteillage.
D'accord. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. À quoi ça sert de créer des centres de santé si la population n'a pas les moyens d'aller se faire soigner, que nos dirigeants changent de mentalité? Merci, c'est André depuis Dakar. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, je vais très bien.
Pardon, c'est
Yannick.
Ah, Yannick, depuis Agoué.
Oui.
Allez-y, Yannick.
Oui, je voulais intervenir concernant les titans sur la voie, quoi. Quand vous arrivez au niveau d'Annie, avant Annie, là...
Yannick, allô Yannick.
Oui.
Est-ce que vous nous avez suivi?
Non, non, non.
Ah, mais justement, puisque nous parlons des sujets différents, quand vous parlez alors des titans sur la voie, nous n'avons pas parlé aujourd'hui. Merci beaucoup Yannick. Je pense que nous allons en arrêter là pour ce qui concerne alors les interventions au niveau alors de nos auditeurs. Merci à vous. Nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce jour. Et Eric, vous avez écouté les uns et les autres. Votre réaction rapidement.
Ouais, c'est vrai que nous tous nous parlons là des moyens pour pouvoir céder à l'hôpital Dr Lafia, que ce soit Lomé ou Accara. Accara, on ne sait pas encore comment ça va se passer là-bas. Mais il faut reconnaître que il nous faut forcément cet hôpital-là. Il nous le faut. Parce que nous avons des parents qui ont des pathologies qu'on ne peut pas guérir sur place. Et donc, cet hôpital-là va nous permettre de régler rapidement l'affaire au lieu de chercher des moyens pour envoyer ces parents-là à l'extérieur. Que ce soit au Ghana, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina, les pays limitrophes du Togo, mais c'est des moyens qu'on va quand même engager pour pouvoir les hospitaliser et les guérir. Et donc, au lieu de parler de coûts excessifs, il faudrait plutôt qu'on regarde l'apport de cet hôpital-là dans les soins dont nous avons besoin.
D'accord.
Et de l'autre côté, on a parlé du parti ANC. Je dis... Chaque organisation a son règlement intérieur. Lorsque vous faites partie
son statut.
D'une organisation, il faut respecter les règles. Et quand vous ne respectez pas les règles, c'est que vous subissez la loi. Et là, c'est là où commence quand même la démocratie. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes une ponte de cette organisation-là, que vous ne pouvez pas être touché quand vous transcendez un peu les règles mises en place. Et donc, je dis, quel que soit ce qui se fait dans ce parti-là, c'est qu'il faut, comme on dit chez nous, hein, le linge sale se lave en famille. Trouvez les moyens de régler ce problème-là lorsque vous pensez que la personne qui est à la tête de votre organisation ne vous respecte pas ou ne respecte pas lui-même les règles imposées. Trouvez les moyens de l'enlever ou bien sortez carrément de cette organisation.
D'accord.
Mais lorsque vous continuez pas y être, c'est que vous devez suivre les règles
de la ligne conductrice alors voilà. Du parti. Alors, Adam.
Oui, bon, moi je voudrais réellement, c'est vrai que dans un environnement politique, on a besoin, bien évidemment, d'opposition. Mais au-delà des différences inouïes exprimées par certains membres qui ne se trouvent plus alignés sur la ligne de conduite, il faudrait quand même qu'on transcende un peu cette différence, toi, et faire en sorte qu'on puisse trouver des points de convergence pour, en tout cas, faire asseoir cette dynamique politique dont on a besoin.
D'accord.
Mais j'ai encore un mot, c'est justement pour saluer le président de l'UNATROT au regard, vous savez, les drames que le Togo a subis, a érigé, d'après un communiqué du ministère de la Sécurité, et convier donc les transporteurs à observer les consignes du gouvernement en ce qui concerne les gabarits qui détruisent en réalité les infrastructures routières et faire en sorte que nous puissions préserver nos infrastructures.
Merci beaucoup. Isidore ?
Non, je voulais rebondir sur le développement d'Eric Johnson. C'est bien beau qu'un privé ou un parapublic puisse nous construire des centres de référence high-tech.
Ça va encore mais coûter plus cher, hein?
Non, c'est ce qui se passe, non?
Ah.
Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec... je vous ai fait le parallèle la fois dernière, tout de suite là. Quand on a construit l'habitat au niveau de Tourcoing, mais c'était pour les jeunes fonctionnaires. Mais quand la caisse, à ce temps-là, c'était pas écrit à Wadé, hein, a construit son habitat, mais c'est pour les cadres. À quoi ça a servi? Et quand vous y allez, vous allez que c'est les ponts du régime qui sont là-bas. Ce n'est pas accessible à la population. C'est ce que nous voulons dire. Ben même par exemple, à ce que vous disiez là, c'est ça, combien, ni vous, ni moi, nous n'aurons pas la possibilité d'y aller. Même si on a la volonté, on n'a pas les moyens pour. Je souhaiterais qu'on puisse s'inspirer de ce que Yahi Boni fait. À côté, il a construit.
Yahi Boni, vous voulez dire, ou bien Patrice Talon?
Patrice Talon. Patrice Talon a construit un centre, un hôpital de référence accessible à la population. Mmh. Et ça appartient à l'État. Mmh. Ça appartient à l'État. Allez, non, mais les Béninois, nous le disent.
Mmh.
Et il dit qu'il a interdit les transferts qu'on appelle-t-on à l'étranger, qui va construire un truc de référence, mais qui, moi j'ai des cousins là-bas, ils y vont.
Ils y vont. Ok, merci.
Donc, il faut parallèlement à ce que la Caisse nationale de sécurité fait, il faut renforcer et garnir nos plateaux techniques.
D'accord, merci.
Et que dans chaque centre, dans chaque région, qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence avec des plateaux bien garnis.
Merci beaucoup, Isidore. Isidore, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Note de fin d'émission.
Oui. C'est de 0 à 10 pour une institution. Ou une personnalité.
Bon, je n'en vois pas. Je n'en vois pas pour le moment. Au risque de cisailler cette...
D'accord, ok. Eric ?
Non, moi, je voudrais donner 8 sur 10 à Sina Lawson qui est allé à un forum en Afrique du Sud où elle a eu a développé un thème sur l'intelligence artificielle et le numérique, où elle a pris l'exemple de comment ça s'appelle, l'opération Novici, qui a été une réussite et que d'autres pays ont tout de suite voulu s'inspirer pour faire aussi des
D'accord.
opérations.
8 sur 10, c'est ce que votre stylo rouge donne.
Parce que je pouvais donner 10, parce que là, on n'a pas encore des gens qui...
Ok, oui, Adam, votre stylo rouge donne quoi?
Oui, oui, et moi je donne 9 sur 10. Vous savez, les questions...
9 sur 10?
Oui, les questions sécuritaires, sur la sécurité...
Oui, à qui d'abord?
M'intéressent. Colonel. Et moi, je pense que je donne 9 sur 10 au président de l'INATRO, qui fait beaucoup d'efforts pour nous éviter.
D'accord. Hein, ok. Merci beaucoup, chers confrères. Merci, Eric Dawson, d'être passé alors dans cette émission. Adam Andronou, merci d'être passé dans cette émission. Isidore Akolo, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes à la fin. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour votre contribution à cette émission. Merci à Thomas Kossi et Teda TV qui assurait la mise en onde. Jérôme Dakoutsa était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. Au revoir.